France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Dans la famille des fromages à pâte pressée non cuite, il y a évidemment le laguiole, mais le laguiole a aussi des cousins germains.
Oui, c'est le Cantal et le Salers. Alors la principale différence, notamment avec le Cantal, qui est notre grand frère, on va dire, c'est un produit, nous, 100% lait cru et au lait entier. Le Cantal, c'est du lait cru, mais aussi du pasteurisé, et avec aussi un écrémage en amont de la fabrication du lait. Et ensuite, le Salers est un produit donc fermier, uniquement fermier. Donc là, c'est quand même autre chose encore, avec une technologie Cantal, mais fermier.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Ils sont tous les trois auvergnats, ils sont tous les trois au lait de vache. Ils bénéficient tous les trois d'une AOP, appellation d'origine protégée. Ils se ressemblent physiquement et ils entretiennent même une vraie parenté gustative à tel point qu'on les confond souvent au moment de les choisir au rayon frais des supermarchés et chez le fromager. Cantal, laguiole, Salers, on s'y perd. Ces fromages sont frères, mais on va voir qu'ils ne sont pas jumeaux. Leurs points communs et leurs différences, leurs affinages et les nombreuses recettes auxquelles ils se prêtent. On va tout vous expliquer avec notre spécialiste des fromages, Pierre Coulon. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé, Pierre, la Laiterie de Paris, Paris 18e. Vous nous en rappelez l'adresse ?
74 rue des Poissonniers et 125 rue Crimée. Il y en a une deuxième.
Il y en a une deuxième, absolument. Vous êtes formateur et vous êtes aussi l'auteur d'un livre de référence, Le bon savoir du fromage aux éditions First, une encyclopédie très fouillée sur les fromages. Vous allez nous raconter ce trio de fromages auvergnats. Vous les vendez aussi, hein ?
On les vend aussi.
À la Laiterie de Paris.
Oui, bien sûr.
On va même parler de la Tom Fresh, qu'on pourrait considérer comme un peu l'embryon de ces trois fromages.
Une étape, en tout cas, de la fabrication, oui.
C'est ça, et qui est à la base d'un grand plat qui file.
Exactement, la Ligot.
Mais pas que. On va le voir. Elles sont avec nous jusqu'à midi, notre chroniqueuse reportrice Zazie Tavitian et notre chroniqueuse vin Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi je suis allée dans l'Aveyron, même dans le centre Aveyron, pour cuisiner avec du fromage et accessoirement manger aussi beaucoup de fromage.
Zazie en vadrouille qui nous a rapporté de superbes choses bien affinées. Et Justine ?
On va parler du rôle des pionniers, de deux pionniers en particulier. On va réviser nos classiques aujourd'hui.
Des pionniers et une pionnière aussi ?
On verra.
Du vin, on va voir ça. Réagissez dans notre émission en direct sur franceinter.fr et sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com. Et retrouvez toutes nos infos, les podcasts de nos émissions et de nos chroniques, les recettes de notre invité Pierre Coulon qui va se mettre à cuisiner. Il y a des choses qui chauffent sur la plaque de cuisson de notre émission. Nos bons plans, tout ça, ça se retrouve sur franceinter.fr. À la page, on va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
La Haute-Auvergne fournit une très grande quantité de fromages, tous de lait de vache. Il y en a de gros et de petits. Le gros, que l'on appelle ordinairement Cantal, à cause d'une montagne de ce nom située entre Saint-Flour et Aurillac, où il s'en fabrique le plus, est du poids de 30 à 40 livres. Quoi qu'il se fasse en France, un négoce assez considérable de fromages de Cantal, il faut convenir que c'est un des moins estimés de toutes les sortes de fromages dont il a été parlé, si ce n'était le menu peuple et les communautés religieuses qui en consomment beaucoup, à cause de son prix, qui est des plus médiocres. Il ne s'en verra que très peu à Paris et dans les autres villes considérables du royaume. Les meilleures montagnes de cette province, pour la nourriture des vaches à lait, sont celles de Salers. Ces bêtes y en donnent en si grande quantité qu'ordinairement, on rend au propriétaire de chaque vache par année 2 quintaux de fromage, qui ordinairement se vend depuis 11 jusqu'à 13 livres le quintal.
Voici comment les fromages d'Auvergne étaient considérés au XVIIIe siècle. Pierre Coulon, c'est vous qui nous avez mis sur la voie de ce document incroyable. C'est un extrait de l'encyclopédie méthodique de Diderot et d'Alembert, paru en 1883. Merci à notre ami Stéphane Combe pour la lecture. Le moins qu'on puisse dire, Pierre Coulon, c'est que Diderot et d'Alembert n'étaient pas très tendres avec le Cantal, qui était réservé en fait au menu peuple.
Effectivement, au menu peuple. Et alors, pourtant, c'est pas encore l'époque où le Cantal va vraiment s'industrialiser et va vraiment se développer, se pasteuriser. Donc c'est rigolo de voir qu'on distingue déjà un Cantal souvent fait en plaine aussi, c'est un peu ça dont parle Diderot, en opposition aux fromages qui vont être faits dans les estives et dans les burons.
Parce qu'effectivement, on évoque alors, par contre, en des termes très louangeurs, le salaire.
Le salaire, effectivement, qui correspondait à ces fromages qui étaient faits en été, en montagne, avec le lait des vaches salaire à l'époque.
On voit déjà apparaître, Pierre Coulon, à la fin du XVIIIe siècle, donc cette espèce de rapport de force, hein, en quelque sorte, entre les différents fromages de vaches dans cette région d'Auvergne, dont la réputation variait en fonction des terroirs. On va voir comment, d'ailleurs, aujourd'hui, cette hiérarchie perdure ou pas. Alors, Cantal, Salers, Laguiole, ils ont, on est tous d'accord, une histoire commune, un territoire commun.
Alors, ils ont effectivement une histoire commune, parce que c'est parmi les plus vieux fromages de France. Les plus vieux fromages de France, ça va être ces pâtes broyées, qui sont fabriquées en Auvergne et en Aubrac, parce qu'on parle d'Auvergne, mais l'Aubrac, c'est quand même en jonction avec l'Aveyron, donc c'est une petite région qui est bien à part.
Et quand on parle d'Auvergne, on parle évidemment de la région historique, mais pas au sens administratif,
oui,
parce que...
Oui, effectivement, ouais. Et du coup, ils ont ce point commun d'être donc des pâtes broyées, d'être des gros fromages aussi, d'avoir connu une forte période de haut négoce, hein, parce qu'on parlait à l'époque de 300 buronniers, même dans la zone du Laguiole, et d'avoir ensuite connu des histoires très 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 différentes, avec ce grand Cantal qui lui va un peu s'industrialiser, et deux appellations qui vont répondre, que sont le Salers et le Laguiole, qui sont plus militantes et qui feront en tout cas le choix du lait cru.
Vous avez prononcé le mot de buronnier, ça mérite un petit éclairage, parce qu'il y a un mot-clé qui revient souvent dans la fabrication de ces fromages d'Auvergne, c'est le buron.
Le buron, en fait, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle les chalets, par exemple, quand on parle des Alpes. Le buron, c'est des petites cabanes, alors souvent en pierre, avec des toits en lauze, dans lesquelles on fabriquait le fromage et on se logeait aussi quand on partait en été avec les vaches là-haut. Donc du coup, aujourd'hui, alors il y a très peu de burons en activité, hein, il en reste quelques-uns en Salers. L'appellation Laguiole a lancé son appellation salaire de buron pour valoriser le salaire fermier, mais c'était les fromageries dans lesquelles on fabriquait les fromages quand on avait de l'herbe.
La motivation pour fabriquer du fromage à l'origine, c'était de conserver du lait pour les périodes froides.
Effectivement, parce que comme l'herbe, c'est le fourrage le plus riche pour une vache et c'est avec ça qu'elle va faire le plus de lait, autrefois la production laitière était très saisonnée. En hiver, quand les vaches mangeaient des tubercules et du foin, elles faisaient très très peu de lait, voire elles étaient taries. Souvent, la plupart du temps, on faisait naître les veaux au printemps pour que les veaux profitent également de la pousse d'herbe, sachant qu'à l'époque, on trayait les vaches avec les veaux, sur toute l'Auvergne. Du coup, on se retrouvait avec énormément de lait à une saison donnée et souvent on faisait des gros fromages parce que comme les hivers étaient longs, il fallait qu'on ait des pièces assez grosses pour qu'elles puissent tenir jusqu'au printemps prochain. Comme on va croiser ça, finalement, avec les Gruyères, avec le Comté, avec le Beaufort également, ça sera une histoire qu'ils auront en commun, ces gros fromages.
Très souvent, on a l'habitude de classer ces trois fromages, Cantal, Laguiole, Salers, dans les pâtes pressées non cuites, qui sont ensuite moulées dans ce que l'on appelle des fourmes, hein, c'est-à-dire...
Des fourmes, quand on va parler de l'Auvergne, effectivement. Les pâtes pressées non cuites, c'est des fromages, effectivement, on ne va pas dépasser 40 degrés lors de la fabrication. Mmh. On va presser pour assurer la cohésion du caillé. Eux, ils vont avoir une étape, c'est qu'il va y avoir deux fabrications. On va commencer d'abord par faire une tome, cette fameuse tome fraîche. Donc, on va faire chauffer le lait, on va mettre la présure, on va découper le caillé, le brasser et le presser avec un presse-tome en le retournant plusieurs fois. Et après, cette tome, on va la laisser acidifier plus ou moins longtemps, entre 1 et 2 jours, suivant les producteurs. Et c'est là où on la broie et où on la sale et on la represse pendant 3 jours parce que c'est très sableux et ça va se retrouver un peu dans la texture. Quand on regarde d'ailleurs un Cantal, un Salers, un Laguiole, on arrive un peu à les défaire avec les mains et on recroise ces morceaux de tome fraîche avant d'être affiné entre 3, 4, voire 1 ou 2 ans.
On n'a pas du tout une texture de pâte cuite comme le Beaufort, le Comté, qui sont des pâtes assez fondantes et lisses. Là, il y a un effet, enfin, j'ai presque envie de dire qu'il y a une mâche un peu texturée. Il y a un grain absolument, Justine.
Effectivement, on n'a pas la cohérence des pâtes cuites ou des fromages qui sont formés en une fois, où on aura effectivement plus de densité de pâte. Alors qu'ici, on voit effectivement que cette texture et sa structure est très différente.
Alors on va voir effectivement qu'il y a des nuances en fonction des terroirs, des affinages, et puis en fonction de ces trois fromages et de leur identité. Mais il y a aussi aromatiquement peut-être quelques traits caractéristiques, des dénominateurs communs. L'acidité par exemple.
Alors l'acidité fait très clairement partie des arômes clairs de ces fromages. Mm-hmm. C'est en lien aussi avec la fermentation de la tome qui va rester 1 à 2 jours à température et qui va commencer à travailler. Donc on a quand même un ressenti de l'acide lactique qui est assez présent, qui peut même tirer jusqu'au vinaigré sur certaines pièces pareil, moi, c'est des choses que j'aime, parce que c'est des fromages qui ont des choses à dire. Il y a aussi, alors nous, on utilise souvent le mot animal pour en parler, parce que c'est des fromages qui, très vite, vont prendre de la rusticité. Et ont ce côté très étable, qui est assez rare dans la famille des pâtes pressées non cuites.
Alors, ces trois fromages d'Auvergne vont connaître un fort développement, jusque dans les années 50, et ensuite vont intervenir les appellations d'origine protégée. C'est un signe officiel de qualité qui a récompensé chacun de ces trois fromages, Cantal, Laguiol, Salers. Je ne sais pas si je parle d'ailleurs dans le bon sens en termes chronologiques.
Le Cantal, c'est le premier, c'est rigolo. Ils naissent tous en même temps avec les Celtes, les Arvennes, il y a 2000 ans. Et par la suite, ils vont avoir des histoires différentes. Le Cantal va se développer fortement. D'abord en Cantal fermier, hein, fabriqué dans les Burons, comme ses cousins. Et par la suite, on va avoir une industrialisation qui va être renforcée, notamment avec l'arrivée d'Émile Duclos, un des disciples de Pasteur, qui va lancer la pasteurisation. Et c'est vrai que dès le début du XXe siècle, on a les premières manufactures à Cantal. Hein. C'est les premières usines un peu qu'on a dans le fromage qui vont s'installer avec des groupements pour commercialiser. Mmh. Et face à ce Cantal qui commence un peu à jouer la carte de l'industrie, on a quelques producteurs qui commencent à s'élever. Et en 1956, ce Cantal va avoir son appellation d'origine contrôlée à l'époque. Et il faut attendre 6 ans plus tard pour qu'on ait ces deux autres appellations qui viennent en réponse. La première, c'est le Salers 100% fermière, pour rappeler ces fromages de montagne, faits avec de l'herbe. D'ailleurs, on verra qu'il est saisonné. Et la seconde, c'est le Laguiol, sur une histoire de coopérative qui va, dès le début, miser sur l'ultra qualité, ce qui est ultra rare dans les années 60.
Derrière la console pour mitonner cette émission, Laurent Thomas et Titouan Labarre, Fabrice Rivaud et Tiana Salle pour la préparation et l'organisation de l'émission. On se retrouve pour parler Cantal, une des plus importantes appellations d'origine protégée fromagère en France. C'est ce qu'on va voir avec vous, Pierre Coulon. Et ça, c'est juste après Les Astres de Laura Cahen, choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
François-Régis Gaudry, on va déguster.
Cantal, Laguiol, Salers, trois fromages de caractère, trois fromages d'Auvergne qui se ressemblent mais qui ne se confondent pas. Et des fromages aussi d'ailleurs, Pierre Coulon, dont les noms ne sont pas toujours faciles à prononcer, il y a des petits débats quand même. Alors, il y en a un sur lequel il n'y a pas d'ambiguïté, c'est Cantal.
Cantal, c'est assez facile.
Ça se prononce partout de la même manière. Après... Ensuite, ça se complique. Pour le laïol, il y en a qui disent...
La gueule.
Voilà. Et pour le salaire, il y en a qui disent salaire. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on croise. Alors, moi, quand je suis en région, on dit salaire et on dit laïol. Tout à l'heure, on entendait le monsieur du laïol dire salaire. Alors, est-ce que c'était un petit pic pour ses concurrents ou quelque chose comme ça? Mes clients, moi, ils disent la gueule et salaire. Hein, ça, et on ne les reprend pas. Ils lisent les étiquettes. Et finalement, phonétiquement parlant, ce n'est pas déconnant.
Mais à laïol, ils disent salaire. N'oublions pas qu'on est dans la ville de Michel Brasse,
oui,
le fameux cuisinier.
Effectivement. Mais à laïol, ils disent laïol, quoi, quand même. Ça, moi, quand je visite la coopérative et qu'on parle du laïol, quand même, de manière
Zazie,
générale.
Zazie, de retour du terrain, qu'est-ce que vous en dites?
Moi, j'ai fait vraiment attention à dire l'aïeul, vraiment, pour être accepté par les locaux quand je suis arrivée en Aveyron. Et là, il disait la gueule. Donc du coup, je ne sais plus, moi.
Il faut dire comme les gens, hein, faut s'adapter en 2 secondes et s'excuser rapidement. Hein.
D'accord. Alors, on commence avec le Cantal. On commence en effet par ce poids lourd des fromages d'Auvergne. Peut-être bien l'un des fromages les plus consommés en France, d'ailleurs, hein, Pierre Coulon.
Alors, effectivement, c'est un fromage qui est très, 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 très consommé, avec 11 000 tonnes de Cantal tous les ans. Ça paraît beaucoup, mais le Cantal, on en consommait quand même 14 000 tonnes il y a une dizaine d'années. Donc, on est quand même en chute libre sur les volumes de Cantal. C'est la quatrième appellation en fromage de vache. On va d'abord avoir donc, notre fameux Comté, suivi par le Reblochon. Le Cantal s'est fait doubler par le Saint-Nectaire.
Ah.
Et finalement, si on rajoute le Roquefort, c'est la cinquième appellation. Donc on voit ce Cantal perdre un peu, le Morbier le talonner et faire une explosion au niveau des volumes, avec en plus une appellation qui est très peu fermière, parce que sur ces 11 000 tonnes de Cantal, on n'aura que 700 tonnes de fromage fermier.
Vous êtes en train de nous dire, Pierre Coulon, que le Cantal a un peu lassé les Français et les Françaises. Que se passe-t-il ?
Alors, quand on voit les volumes baisser, il peut y avoir différentes raisons pour que les volumes baissent. On a effectivement peut-être un petit côté lassitude. On a eu aussi des épisodes de sécheresse qu'il ne faut pas oublier dans la région, qui ont aussi diminué les volumes, hein, parce que très clairement, on voit que les volumes de salaire ont un peu diminué également. Et le Cantal était aussi construit d'une manière assez peu claire, avec un Cantal jeune qui était vraiment très jeune, un Cantal entre deux qui pouvait avoir à l'époque entre 3 et 7 mois. C'est très différent, 4 mois sur un fromage. Et un Cantal vieux très rare, très serronné, avec ses petits acariens autour, qui pouvait aussi être rebutant. Quand on a vu les autres appellations arriver, elles avaient aussi des arguments, en tout cas pour les consommateurs qui vont aller dans les crèmeries, qui vont aller en vente directe, qui vont aller chez les producteurs, un peu plus fort. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui, c'est que derrière ce géant Cantal, on oublie qu'on a aussi des super fabricants de Cantal.
Alors on va en parler évidemment, mais est-ce que ce Cantal, l'appellation globale, ne paye pas non plus, je dirais, une forme de laxisme du syndicat qui s'occupe de cette appellation, avec un cahier des charges qui est quand même pas très très restrictif, et qui a privilégié certainement la quantité à la qualité, qui a privilégié une forme de productivité.
Alors, effectivement, alors je vais pas me faire des amis en disant ça, mais l'Auvergne n'a jamais protégé ses races de vaches. Donc, on voit que dans les autres régions et dans les autres appellations, il y a une attention générale quand même sur les races locales, hein, la Normande en Normandie, l'Abondance en Haute-Savoie, la Montbéliarde pour le Comté. En Auvergne, aujourd'hui, la vache salaire ou la vache férandaise ou la vache au braque, alors qui étaient certes des vaches qui donnaient peu de lait sur un système très compliqué qui la traite avec le veau, ne sont pas dans les appellations. Alors, sauf sur le salaire tradition, comme on le verra sûrement un peu plus tard.
Là, vous êtes en train de dire que pour le Cantal, on peut utiliser n'importe quelle race bovine laitière.
On peut utiliser n'importe quelle race, on peut pasteuriser le lait, on peut nourrir les vaches aux ensilages. Alors, moi, j'aime bien, parce que dans mon métier, ça me demande d'aller chercher, du coup, pour trouver un chouette Cantal. Mais il peut y en avoir des très clairement sans intérêt, quoi.
Rappelez-nous, s'il vous plaît, ce qu'est la pasteurisation pour celui qui n'aurait jamais entendu parler de ce traitement thermique.
La pasteurisation, c'est le fait de chauffer le lait pour surtout stabiliser les goûts, avoir des dates un peu plus longues, notamment en grande surface, et aussi un peu plus de rendement. Les industriels nous le rappellent rarement que c'est pour ça.
Est-ce que le Cantal n'aurait pas été excessivement aussi popularisé dans les bistrots parisiens, qui sont historiquement tenus par des Auvergnats, qu'on appelle les fameux bougnats?
Les fameux bougnats.
Et qui balançaient du Cantal en très grande quantité sur les planches de dégustation avec de la charcuterie. Et du coup, ça a peut-être un peu banalisé ce fromage et ça a encouragé l'appellation, les producteurs, laisser un peu filer le cahier des charges.
Laisser filer le cahier des charges, c'est toujours compliqué. En fait, comme c'est une grosse appellation, il représente beaucoup de gens. Donc, on a des personnes qui travaillent très très bien, des personnes qui travaillent, à mon goût, un peu moins bien. Effectivement, ce Cantal, on l'a vu partout, avec des fortes communications. Il était même présent dans certains hamburgers d'une très célèbre marque. Hein. On en a un peu fait tout et n'importe quoi. Et
vous, vous parlez de McDonald's. D'enseignant M, oui, on peut y aller. Hein.
Et en fait, on oublie que ce fromage est un fromage de couteau, est un fromage de cuisine aussi. Moi, je l'ai redécouvert vraiment sur le tard. Je l'ai boudé en début de carrière, ce fameux Cantal. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que le Cantal, aujourd'hui, c'est devenu une des références les moins chères que j'ai dans ma boutique. Et j'y tiens énormément, parce que c'est notre fromage qui va être parmi les plus accessibles face à l'augmentation des prix.
Parce qu'alors, prix constaté, par exemple, à la laiterie de Paris, s'il fallait faire le différentiel entre ces trois appellations, il y a des différences très notables.
Alors, très clairement, on va démarrer dans les 20 euros pour le Cantal. Le Laïeul,
on parle au kilo, évidemment. Hein.
Oui, effectivement. Et j'ai ramené un fromage qui n'est pas du Salers, mais qui est fait au lait de vache Salers, de mon amie Charlotte Sala.
Charlotte Sala.
Qui fait le Sala Tradition, comme son nom de famille, un fromage que j'adore vendre dans mes boutiques. Va friser les 40 euros, effectivement.
Et qui peut être beaucoup plus cher dans de très nombreuses fromageries parisiennes, il faut le préciser.
Je ne dis rien.
Alors, pour autant, attention, il ne s'agit pas de clouer au pilori le Cantal. Il existe de bons Cantal. J'allais dire de bons cantaux,
oui.
De bons Cantal, fermiers notamment.
Alors, les fermiers d'un côté, c'est pas spécialement ceux dont j'ai fait le choix, parce que les producteurs qui font du Salers, on verra qu'ils ne peuvent le faire que quand les vaches mangent de l'herbe. Mm-hmm. Donc quand les vaches retournent à l'étable l'hiver, ils font du Cantal fermier comme ils font du Salers. L'alimentation change, les pâtes sont différentes, elles sont plus blanches. On a des fromages qui sont un peu plus doux aussi, parce qu'on a moins d'activité bactérienne dans les laits. Et après, moi, il y a deux coopératives pour lesquelles j'ai un coup de cœur, trois même finalement. C'est la coopérative de Pierrefort qui fait le Cantal grand herbage, un Cantal au lait de foin, au lait cru, bien affiné aussi. La coopérative de Saint-Bonnet-de-Salers qui a gardé une collecte en vache Salers. Je ne sais même pas comment ils rentabilisent ça. Ils continuent à aller collecter le lait des 70 éleveurs Salers qui restent dans le département. Et Thérondel, c'est une coopérative de Jeune Montagne qui fait un très très bon Cantal et qui essaye de reproduire un peu l'histoire de Jeune Montagne autour d'un autre fromage qui est le Cantal.
Quand on parle de coopérative, il s'agit de collecte de lait chez des producteurs laitiers,
voilà,
qui mettent en commun en quelque sorte leur lait,
ouais,
qui est ensuite transformé dans cette coopérative.
Alors oui, mais attention, la coopérative, ça a été montée dans l'après-guerre, c'était pour encourager les gens à travailler ensemble, ils sont notamment, ils ne payent pas d'impôts sur les sociétés, donc c'est aujourd'hui, je crois que c'est un produit agricole sur deux qui est produit par des coopératives. Une coopérative, ça peut être trois personnes, ça peut en être des milliers, hein. On a aussi des géants laitiers comme Sodiaal qui sont une coopérative où le ruissellement est un poil moins évident.
Le Salers, c'est le nom d'une commune du Cantal. C'est le nom d'une race bovine, et c'est donc aussi le nom de ce fromage AOP. Alors là, il y a un cousinage avec le Cantal, mais on est plutôt, on va dire, dans le haut de gamme avec beaucoup de points positifs.
Alors effectivement, en tout cas sur le papier, parce qu'on peut lui reprocher deux, trois trucs quand même à ce Salers, notamment le choix de ne pas avoir fait le choix de la vache Salers. La vache Salers, c'est cette fameuse vache qui se trait avec son veau, c'est 5 fois plus de temps pour 5 fois moins de lait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une confusion, parce que peu de gens savent que Salers est effectivement une petite ville du Cantal. Et tout le monde connaît la vache Salers et les industriels jouent beaucoup à utiliser l'image de cette vache, comme d'habitude.
Mais qui est finalement assez peu utilisée dans la production du fromage Salers.
Aujourd'hui, on a tout cassé, on a une dizaine d'éleveurs, donc 7 qui font du Salers tradition. Alors ça, c'est l'appellation qui impose la vache Salers. Puis après, d'autres éleveurs qui vont avoir des fromages de marque, un qui fait du Saint-Nectaire. On est vraiment sur une filière Sentinelle Slow Food, sur laquelle on s'inquiète, nous, sur l'avenir, parce qu'on voit peu de nouvelles générations aller vers autant de travail, malgré la qualité du produit.
Mais sinon, l'appellation coche de nombreuses bonnes cases.
Oui, alors, fromage fermier, donc fabriqué à la ferme, après chaque traite, donc un lait qui n'est pas refroidi, auquel on ne touche pas, c'est énormément de travail. Mm-hmm. Les vaches ne mangent que de l'herbe, du 15 avril au 15 novembre, et alors moi, ce qui me rend amoureux de cette appellation, c'est l'utilisation de la gerle, cette cuve en bois dans laquelle on va fabriquer le fromage, qui n'est jamais désinfecté, qui est juste rincé à l'eau entre chaque fabrication, et dans laquelle les bactéries lactiques vont aller se nicher. C'est le symbole, un des plus gros symboles en tout cas pour nous, les fromagers ou les crus, de la fabrication fromagère traditionnelle.
Vous mettez en avant le travail formidable d'une jeune fromagère. Je vous demande juste de goûter, de me faire un petit commentaire. C'est pas tout à fait du Salers, mais ça y ressemble. Ça s'appelle presque du Salers, mais pas tout à fait. Ça porte le patronyme, en fait, d'une productrice pour laquelle vous avez un vrai coup de cœur, Pierre Coulon, et qui fait un travail extraordinaire.
Oui, Charlotte Salah, qui élève, qui tresse 120 vaches salaires, et qui joue vraiment le jeu de la tradition jusqu'au bout, avec la vache, les veaux. Chez Charlotte, on met 3 heures à la traite le matin, 3 heures à la traite le soir, c'est très très long. Et en plus, derrière, il y a la fabrication en cuve, sur une recette traditionnelle qui s'échange de génération en génération. Et pour bien la connaître, je sais à quel point c'est un combat pour elle aujourd'hui de continuer à exercer comme ça, et à vendre ce produit qu'on trouve, alors par contre, dans les plus beaux endroits.
Pourquoi elle n'est pas dans l'appellation salaire AOP?
Elle n'est plus dans l'appellation salaire parce qu'à l'époque, elle en a été virée. Parce que c'est vrai que quand on goûte son salaire comparativement à d'autres salaires, on peut avoir des différences qui étaient considérées comme des défauts. On a parfois ce défaut. Ce n'est pas le cas de toutes les appellations. Le but, ce n'est pas de cracher sur les AOP. Mais les AOP sont gérés à chaque fois de manière très individuelle. Donc tout dépend des gens qu'on aura qui les géreront. En tout cas, sur Charlotte, c'est leur plus gros loupé, à mon avis. Ouais.
Quel affinage?
Alors là, on est sur un fromage qui est... Charlotte, elle affine en moyenne 6 mois, ses pièces. Donc on est sur un fromage qui est encore assez jeune, mais qu'on voit déjà, qui est chouette.
Non mais attendez, quelle profondeur!
Il y a vraiment une longueur en bouche, comme pour le vin, où on a envie d'y revenir, quoi. Ce que j'ai d'ailleurs fait.
Justine, ce Salah tradition?
Moi, je suis assez séduite par l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes trop aiguës ou trop graves. Il y a quelque chose de très subtil tout le long.
Et avec une très belle rondeur, beurrée, cette légère acidité, c'est formidable.
Et ce qui est rigolo aussi, c'est que c'est des pâtes sur lesquelles on croise des fois un poil d'amertume. Et quand on est sur les hauts plateaux du Cantal, c'est l'endroit où on croise plein de gentiane. Et je trouve que ça s'appelle, en plus c'est ce qu'on boit de la salaire dans les bars le soir en rentrant.
Pierre Coulon va rejoindre la plaque de cuisson pour nous faire déguster un plat à base de fromage. Oui, car le Cantal, le Laguiole et le Salers, ils ont aussi en commun de pouvoir se cuisiner, de passer à la casserole. Et en attendant, on fait un bivouac dans l'Aubrac avec Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Zazie, vous avez décidé de faire un petit saut en Aveyron ou dans l'Aveyron?
Oui, et alors ça, je ne sais pas non plus si on dit en Aveyron ou dans l'Aveyron.
Il y a les deux qui sont possibles. Autre débat.
Et oui, quand j'ai su que le thème de l'émission était Cantal, Salers et Laguiole, je me suis dit que je ne pouvais pas rester à Paris. Alors j'ai ouvert l'application de la SNCF.
Vous avez bien fait.
Et j'ai découvert qu'il existait un train de nuit qui me permettait de me retrouver à 11h seulement à Rodez, dans l'Aveyron. C'est donc ce que j'ai fait. Voilà, vous entendez peut-être derrière le train. Je vous épargne le bruit des ronflements dans mon wagon couchette. Je me suis retrouvée à 6h30 du matin, donc à Saint-Christophe, l'arrêt juste avant Rodez, où Audrey Besson m'attendait, car je n'avais pas choisi cette destination au hasard. Déjà, c'était pour le fromage.
Évidemment.
Aussi, car j'avais très envie d'aller rencontrer Audrey, qui a ouvert le restaurant auprès d'Angèle, il y a un an, à Marcy-Lac-Vallon, dans le centre Aveyron. Je précise centre Aveyron, car j'ai découvert aussi que l'Aveyron était un département très différent du nord au sud, dans son climat, dans son terroir. Les Aveyronnais, d'ailleurs, ne manquent jamais de préciser d'où ils viennent exactement. C'est aussi le cas pour le fromage. Au sud, par exemple, il y a le fameux...
Ah bah c'est plutôt le Roquefort, non?
Voilà, le Roquefort. Et au nord?
Ah bah si on a bien suivi, c'est l'Aïeul.
Voilà, le Laguiole. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos aubraques. Nous sommes arrivés au restaurant d'Audrey, donc qu'elle a décidé d'appeler auprès d'Angèle, car Angèle, c'est Angèle Brasse, sa grand-mère, qui elle-même tenait le restaurant Le Loup Mazuc dans les années 50 à l'Aïeul. C'est un restaurant que les Aveyronnais connaissent bien. Et Angèle était aussi la mère du fameux chef Michel Brasse.
Et oui, et d'ailleurs, on l'appelait souvent Mémé Brasse.
Voilà, Mémé Brasse. J'ai demandé donc à sa petite fille Audrey de nous décrire les lieux.
C'est une maison en plein centre de Marcillac, une maison en pierre rouge typique de Marcillac. C'est vraiment comme une maison de famille. On essaie de transmettre et on a fait les travaux pour que vraiment les gens se sentent à l'aise et comme chez eux. C'est un établissement hommage du coup à ma grand-mère, à mes grands-mères, puis à Maria aussi et à toutes les grands-mères de tout le monde.
Et il y a un portrait d'Angèle au-dessus de la table.
Mémé, c'était quelqu'un de très coquette. Toujours le petit trait sur les sourcils, le rouge à lèvres rouge. Elle se faisait ses propres vêtements. Et là, sur le portrait, elle est assise sur des pierres avec toujours son petit tablier de cuisinière. Et c'est sur les pierres au suquet, donc à l'Aïeul. Mémé était très accueillante. Elle s'intéressait aux gens, aux choses, à tout le monde. Chez ma grand-mère, on allait manger à n'importe quelle heure. Elle ouvrait le frigo, un vieux bout de Laguiole, un bout de viande si elle avait un bout de viande. Et mon deuxième souvenir, c'est Mémé dans le restaurant donc au Suquet, qui faisait l'aligot. pour tous les clients et le personnel, et puis petit à petit en vieillissant pour la famille.
Pourquoi c'était important pour vous de rendre cet hommage aux femmes qui ont aussi cuisiné dans votre famille ?
Je trouve que le temps passe vite, on ne prend pas le temps, du coup c'était un peu prolonger le temps.
Et le fromage, enfin, vous en mangez beaucoup. C'est pas un mythe que dans l'Aveyron, avec tous ces fromages, on mange beaucoup de fromage.
J'ai grandi dans le nord Aveyron, dans une ferme. Mon père élève des aubraques. Mon père n'envisage pas un repas sans fromage. C'est inenvisageable.
Alors, on le sent, Audrey Besson, elle est très émue quand
ah oui,
elle parle.
Elle a la voix serrée. Hein.
Voilà, quand elle parle de ses grands-mères. Son oncle, Michel Brasse, l'a aussi aidé à imaginer la carte de son restaurant avec des jeunes chefs qui sont venus s'installer ici, Zoé et Guilhem, un couple à la ville et en cuisine. Ils m'ont amené ce matin-là faire le marché et notamment acheter du fromage.
Je m'appelle Guilhem et je suis de Barcelone. Du coup, c'est pour ça mon accent.
Et moi, c'est Zoé Prudent et je viens de Lyon. Là, dimanche matin à Marciac-Vallon, il y a le marché avec tous les producteurs du coin. Bon, on travaillait pour Michel Brasse à Paris. Donc déjà, on avait eu cette idée de mettre du fromage un peu filant dans nos plats. Parce qu'à Paris, à la Lograin, on a l'aligot. Quand on est arrivé là, c'était vraiment la révélation, quoi. C'était vraiment le fromage à toutes les sauces, comment le travailler, comment le respecter aussi. Et on est trop contente de découvrir ça, on est très curieux, donc c'est hyper intéressant.
On arrive dans les stands, du coup, à la fin des bouteilles.
Vous êtes le producteur de fromage ?
Voilà, donc on est un groupe de 12 associés. Ça part du sol aux vaches jusqu'au produit fini. Ouais.
Ah bon, et vous avez repris la ferme de votre père ?
De mon père, ouais. Ouais.
Pas possible.
Enfin, l'objectif, c'était quand même de mettre en place une transformation fromagère derrière. Voilà. Parce que le but, c'est de transformer le terroir à un produit fini. Ouais.
Et vous, ici, vous ne faites pas des fromages sous AOP, vous faites vos fromages ?
Non, parce qu'ici, on n'est pas sur zone d'AOP. Ouais.
La gueule, c'est trop loin ?
Oui, la gueule est trop loin. Ouais. La gueule, il va s'arrêter à la vallée du Lot. Donc, on est à quelques kilomètres quand même de la vallée du Lot. Ouais.
Là, vous vendez plutôt localement ?
Très localement, ouais. On vend maximum, on va dire, 80 km autour de la ferme. Ouais.
Je vous passe toutes mes rencontres du marché où j'ai aussi acheté des farsous, de l'aligot ou encore des framboises. Nous sommes ensuite allés au restaurant avec le fromage de Serge Borde, donc de la ferme de Bouteillous, sous le bras, pour cuisiner un plat emblématique de la carte, à base de fromage, bien sûr.
Michel Brasse nous a beaucoup aidés pour l'ouverture. On avait très envie d'avoir une garniture en hommage à Mémé Brasse. Et il a pensé tout de suite aux coquillettes qu'il mangeait voilà, quand il était jeune, que Audrey aussi mangeait chez Angèle. Et en fait, on a donc réalisé la recette de Mémé Brasse, vraiment classique, et on l'a enfermée dans une feuille de brique pour pouvoir la servir facilement aux clients, tout en gardant le fromage filant. On en met trois différents. Donc il y a à la fois le grand vallon, qui est une tome qui ressemble au layol. On met la tome fraîche pour le côté filant, et on met aussi un fromage frais pour le liant.
Il y a une bonne dose de fromage.
Oui, il y a une bonne dose de fromage. Pour un accompagnement bien gourmand. On mettra du sel et on mettra du poivre noir. Et on va prendre les moules, la fouille de brique et on va monter la coquillette.
C'est un petit système de pliage.
Oui, pour que ça reste tout bien dedans et il n'y a pas de trous. Du coup, on met un peu d'huile d'olive dans la plancha. Et voilà, et après, c'est à peu près 5 minutes de chaque côté. Et maintenant, il faut juste goûter et se régaler.
C'est assez irrésistible quand même, les coquillettes.
Des fois, on en mange trop.
Oui, oui.
Ça fait envie, hein. Oh là là.
Ouais, bah, ce midi-là, j'en ai effectivement mangé un peu trop. Et je précise que les coquillettes, elles ont été faites exprès avec un moulin juste à côté, le moulin de Biovézou. Et ce dimanche midi, les chefs, ils proposent toujours des plats à partager pour toutes les tables. Et il y avait ce jour-là un veau de l'Aveyron de chez Rémi Bidal, parfaitement cuit, ou encore une tarte délicieuse au poire poché au vin chaud de Marcillac, crème d'amande et figues. Et la carte des vins aussi, ça vous intéresserait. Justine, elle est 100% aveyronnaise. Donc c'est vraiment une cuisine faite avec les produits des producteurs de la région et avec le cœur. Et je vous donnerai toutes les infos sur le site de l'émission.
Et ce fromage, alors, on peut le déguster où, Zazie ?
Alors déjà, juste devant vous, François-Régis, je vous en ai ramené.
Ah, formidable.
Alors, je vous ai parlé de gratin de coquillettes, mais vous avez devant vous la tome du Grand Vallon, donc la ferme de Bouteillou, une tome de vache affinée 4 mois. Et j'ai aussi croisé sur le marché la route d'un affineur qui est sur le marché tous les dimanches, Guillaume Roche de la Maison Roche, qui m'a proposé notamment ce Cantal affiné 22 mois. Donc c'est assez rare, je crois, Pierre, qu'il soit affiné aussi longtemps.
C'est très très rare et c'est rare que ce soit bon, en fait, aussi souvent. Les années et les mois font pas tout. Et alors là, c'est impressionnant. Moi, je n'irai pas au bord de la croûte parce que c'est pas mon univers, mais alors la pâte est fondante.
Il y a un goût animal au bord de la croûte, c'est assez formidable.
Oui, ça sent un peu le gnoc-mam.
Oui, c'est vrai. Oui, il y a vraiment un côté, effectivement, autrement dit...
Mais le cœur est très équilibré, quoi. Mais non, c'est très très bon ce qu'on goûte là. Surtout la tome.
J'aimerais bien faire votre métier.
Écoutez, je vous partage un petit peu quand même.
Ah ouais, et vous êtes même particulièrement généreuse. Merci beaucoup, Zazie, pour cette très belle immersion et très émouvante immersion dans l'Aveyron. Vous nous rappelez juste l'adresse de cet hôtel-restaurant ?
Oui, c'est auprès d'Angèle, à Marcillac-Vallon. Vous ne pouvez pas rater le lieu et je vous recommande vraiment d'y aller. Il y a aussi un hôtel juste au-dessus que tient aussi Audrey.
Merci Zazie. Et autre surprise dans les assiettes dont on va déguster, bah ce merveilleux plat que vous nous avez cuisiné en revenant de la plaque de cuisson, cher Pierre, c'est le retortilla, c'est bien ça ?
Oui, c'est mon régime alimentaire du moment. Et c'est vrai que on est entre la truffade et la raclette, je trouve un peu. La truffade, c'est un plat qu'on va manger un peu plus au nord de l'Auvergne. Alors comme à chaque fois les départements se disputent, c'est simplement des pommes de terre sautées avec de la tomme fraîche. Comme la tomme fraîche, c'est un peu galère à trouver, parce qu'on n'a pas toujours une crèmerie à côté ou un crémier qui en vend. Il y a une recette qui se passe, alors soit c'est moitié tomme fraîche, moitié fromage affiné, et là je suis allé 100% fromage affiné, et donc c'est avec du laïole que j'ai fait ça. Et que
c'est bon.
Et oui, et ce qui est génial, c'est le fil, le goût du fromage, et c'est des plats qui peuvent malgré tout continuer à accompagner une viande, parce qu'ils ne sont pas non plus ultra puissants. Et...
Mais il y a une magnifique texture filante, d'ailleurs on le voit, hein, il y a des fils de 50 cm en dessous de nos micros, c'est impressionnant, et là vous avez utilisé du laïole. Hein.
Excusez-moi, du coup, je mens. C'est simplement, oui, un kilo de pommes de terre sautées. Là, j'ai mis du beurre, mais ça peut être du sein doux, ça peut être de la graisse de canard. Et ensuite, on met 400 grammes de fromage en dés et on fait fondre tranquillement, on sert. C'est le poivre et c'est tout.
C'est irrésistible, non ?
C'est irrésistible et les pommes de terre sautées sont très réussies parce que c'est pas si simple non plus de
c'est
faire
gentil.
Des bonnes pommes de terre sautées.
Elles sont venues avec moi en métro, voilà.
Et ben en parlant de l'aïeul, cher Pierre Coulon, on vous raconte dans un instant une très très belle success story à la française. On va aussi filer un peu l'aligot, ça c'est juste après Add Up My Love de l'artiste américaine Clairo.
Je préférerais toujours un bon laguiole à un mauvais cantal, un bon salaire à un mauvais laguiole et un bon cantal à un mauvais salaire.
Bon, on n'a rien compris globalement, mais en tout cas, on a compris que Guillaume Roche aime les fromages d'Auvergne. Hein.
Ouais, c'est le fameux Guillaume Roche que j'ai rencontré sur le marché et qui avait beaucoup d'avis sur la question des fromages.
Mais oui, on voit ça. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance aussi de partir dans l'Aveyron pour me frotter au fromage Laguiole. Où ça ? À Laguiole, équipé d'un bon couteau Laguiole.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Alors, Christian Miquet, donc, je suis responsable production à l'Union Jeune Montagne, qui est une coopérative de producteurs. Et donc, on collecte du lait sous l'appellation Laguiole, donc sous cahier des charges, avec obligation de foin dans l'alimentation des animaux, le pâturage obligatoire et une zone naturelle à respecter, qui est l'Aubrac, donc le plateau plus ses contreforts, délimité naturellement par des rivières qui sont la Truyère et le Lot. Alors, donc, on produit, bien sûr, du Laguiole AOP, qui aujourd'hui... est fabriqué avec du lait cru et entier. Ça nous permet de vraiment exprimer sur des fromages de garde la flore qui se trouve naturellement dans le lait. Et ensuite, de la tome fraîche qui va être destinée à la vente directe. On transforme cette tome en aligot, prêt, surgelé, qu'on peut commercialiser dans toute la France.
Le Laguiole, historiquement, c'était la race Aubrac laitière.
Tout à fait. Elle était mixte, elle faisait tracteur, elle élevait son veau et elle produisait du lait pour faire le fromage. Alors, il y a deux races obligatoires qui sont la race Simmental, qui est une race par excellence fromagère, qui nous a permis de vraiment de monter en gamme en termes de qualité. Et puis, bien sûr, la race Aubrac. Alors, elle représente peu d'animaux, mais ça permet de garder notre identité, qui est l'Aubrac.
On va voir comment est traité ce lait.
Et bien, on est parti. Donc là, on a trois cuves qui sont en stade différent. Une cuve est en train de se remplir, donc à 33,5. Ensuite, une cuve où là, on va bientôt mettre la présure. Donc, une fois qu'on aura en présuré, on va arrêter les brasseurs. Et on va attendre 25 minutes, et donc là, le lait va se transformer en quelque sorte en gros yaourt. Et ensuite, une autre troisième cuve qui est déjà décaillée, où on a le sérum et le caillé qui s'est déjà séparé, et on est en train d'évacuer le sérum avant de sortir le caillé de la cuve. Alors, le lactosérum, on l'écrème, puisqu'on n'a pas le droit d'écrémer le lait, mais c'est avec cette crème de sérum qu'on fait notre aligot.
Il fait nettement plus froid, là.
On va vers la cave, donc on baisse en température.
Alors là, il faut imaginer des formes en inox.
Voilà, alors on a broyé, on a pesé et ensuite on a mis une dose de sel. Et là, vous voyez, c'est une phase où on remalaxe, on redonne de l'oxygène à cette matière avant de la mettre manuellement par couches successives dans un cylindre, un moule, hein, un gros moule en inox avec une toile de lin qui permet d'augmenter la surface du futur fromage dans la cave pour que la moisissure puisse s'installer en fait sur la périphérie du fromage. Et ensuite, on met une plaque inox pour finaliser le fromage. Avant, on le faisait au point. On s'est équipé de petits pistons qui permettent de monter le fromage avec ce piston. Donc ça fait un fromage qui est de l'ordre de 50 kg.
La coopérative est un lieu aussi de vente directe.
Oui, c'est un lieu même, je dirais, très, très prisé puisqu'on a plus de 5000 visiteurs. Et donc là, vous avez toute la gamme Jeune Montagne qui est disponible.
On peut goûter ensemble ?
Bien sûr, on va déguster. Donc, quand on déguste, il faut commencer par le plus jeune et finir par le plus vieux, sinon on peut être perturbé. Allez-y.
Laguiole, 4 mois, c'est le plus jeune.
C'est le plus jeune, voilà. Donc là, vous allez retrouver vraiment du lacté, du beurré.
Souple.
Voilà, plus vous vous affinez, normalement, moins on est souple. Moi, je vous préconise le Laguiole d'été, le Grand Aubrac, qui vraiment a un goût de la flore de l'Aubrac.
Et la couleur ?
Et la couleur, bien sûr, avec une couleur ivoire et plutôt même jaune, qui vraiment traduit la saison.
Waouh.
Voilà, ça reste longtemps en bouche.
Voilà, une texture un peu plus cassante.
Voilà, c'est normal, puisque, comme je vous l'ai dit, le produit perd un peu d'eau pendant son affinage. Donc là, c'est un fromage qu'on, généralement, on vend entre 10 et 15 mois.
Là, on a quand même l'impression de déguster les paysages.
On est au moment de la transhumance, donc c'est vrai que c'est des paysages avec beaucoup de fleurs, beaucoup de verdure, des espaces... de pâture à l'infini, en quelque sorte, qui est vraiment exprimée dans ce produit. Alors là, on goûte le 20 mois, donc ça, c'est pour nous un fromage qu'on considère vraiment à caractère.
Voilà. Il y a une intensité, une longueur, une persistance.
De suite, voilà. De suite, on sent qu'il y a une grosse différence. Et surtout, vous allez le garder en bouche pendant plusieurs minutes derrière. Ce goût vraiment... Alors, je dirais pas carné, mais c'est un goût encore particulier. Et même, on a du mal à l'exprimer tellement qu'il y a des goûts différents.
Est-ce que le Laguiole... C'est un fromage de plateau ou c'est un fromage qui peut passer à la casserole ?
Alors, moi, je dirais, avant tout, c'est un fromage d'apéritif. Pour les traditionnels, on peut le manger en fin de repas. Mais aujourd'hui, la consommation évolue. C'est un fromage qu'on met en cube, qu'on met à l'apéritif. Et il passe tout le temps.
C'est vous, Pierre Coulon, qui m'avez encouragé à aller visiter Jeune Montagne, cette coopérative dont Christian Miquel, qu'on entendait, est directeur de production. Le Layol et ses différents affinages, je me suis vraiment éclaté. Fabriqué artisanalement, vendu en direct à cette coopérative. Alors tout le monde y passe, hein. Il y a un succès incroyable. Il y a les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, les locaux, les touristes, les amateurs de couteaux, ceux qui reviennent d'une expérience chez la famille Brasse au Suquet. Bref, gros succès. Et c'est surtout grâce à cette coopérative que le terroir de l'Aubrac s'est revitalisé en fait.
Clairement, grâce au travail de plusieurs personnes, mais on peut saluer, alors moi j'adore ces histoires-là, de gens qui ne sont pas des gens de grande éducation et de tout ça, mais qui sont des poètes, des gens qui vont bien se battre, et des fois on les voit apparaître en campagne, faire des petites révolutions qui sont éthiques avant l'heure, qui sont bonnes avant l'heure, donc ça c'est très impressionnant. André Valadier, dans les années 50, n'a pas voulu quitter l'Aubrac, comme le faisaient les gens qui montaient à la capitale, et par contre, dans les années 50, il n'y avait plus de volume, il n'y avait plus d'intérêt pour ce fromage-là, et tous les burons fermés les uns après les autres. Et lors d'une visite en Franche-Comté, il a découvert l'organisation des gens en Franche-Comté, le travail en coopérative, le lait cru, la qualité. Et quand il est revenu dans sa commune avec ses collègues, ils ont décidé du coup de monter cette coopérative Jeune Montagne, jeune parce qu'ils étaient jeunes, quoi. Ils ont toujours été vers plus de qualité. Le choix des vaches, le pâturage, le foin, c'est venu avec le temps, tout ça.
Le choix du lait cru.
Le choix du lait cru. Mais au début, ça n'intéressait personne. Parce que dans les années 60, les gens n'étaient pas du tout... Il n'y avait même plus de filière. Les crémiers fromagers fermaient les uns après les autres. La grande distribution commençait à venir. Et c'est là où ils ont commencé, du coup, à vendre de l'aligot. Comme leur fromage ne partait pas, ils ont vendu la tome fraîche. Au début, sur les foires, sur les matchs, sur tout ça. Et ils sont devenus très, très doués en aligot. Aujourd'hui, Jeune Montagne, c'est une des coopératives qui paye le mieux le lait en France. J'adore quand je vais là-bas. Il ne me parle pas de cahier des charges, il me parle de cahier de ressources. J'adore quand je vois les réunions où tous les gens sont là. On a aujourd'hui des initiatives individuelles de gens, mais qui restent adhérents de la coopérative, qui fabriquent à la ferme, dans les burons. Je trouve qu'il y a un truc qui marche bien.
C'est un modèle où tout le monde gagne, en fait.
Ils sont rares dans le monde du fromage.
Mais c'est vrai, les producteurs de lait, les vendeurs de fromage, ceux qui les fabriquent dans cette coopérative.
Et les consommateurs, parce qu'en plus, ce produit est juste dingue.
À des prix ultra juste. Alors évidemment, il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est de la vente directe.
Alors, et puis ce qui est drôle, c'est que l'endroit à Layol, je crois que c'est le plus gros point de vente de détail de fromage en France.
Bravo.
Donc voilà, allez à Layol, remplissez vos valises.
Ah non, mais j'ai été ébloui par ce modèle agricole. Vive la coopérative Jeune Montagne à Layol. C'est vraiment un travail exemplaire. Signalons aussi que depuis 2023, la tome fraîche de l'Aubrac a obtenu son
IGP.
Oui. Indication
géographique protégée. Ils se sont battus pour que cette tome fraîche ait son IGP et se démarque un peu des autres tomes fraîches qu'on croise, qui sont souvent pasteurisées. Ici, on est sur le même cahier des charges du Layol, donc les races, l'alimentation, et on est au lait cru, et ça, c'est encore une belle victoire.
Et c'est cette tome fraîche, évidemment, l'un des ingrédients de base de l'aligot, qui est cette fameuse purée de pommes de terre qui file grâce au fromage.
Effectivement, l'aligot, ça vient de aliquid en latin. Hein. C'est ce que demandaient les gens aux portes des monastères. À l'époque, un mélange de pain, de légumes et de tome fraîche. Et dès que la pomme de terre va arriver dans les monastères de l'Aubrac, on va se mettre à servir une purée avec de la tome fraîche. Et ça va devenir ce fameux aligot.
Dans un instant, on va déguster pour finir cette émission une magnifique recette. Alors qu'on connaît un peu moins, on n'en dit pas plus, okay. Mais à base de tome fraîche, c'est bien ça?
À base de tome fraîche et de salaire. J'ai un peu mélangé les genres.
Des pionniers, il y en a dans le fromage, mais il y en a aussi dans le vin.
On va déguster sur France Inter.
On reste dans l'Aveyron, Justine Knapp.
Et oui, en fait, je voulais reparler justement de ces derniers producteurs de Layol qui ont créé la coopérative Jeune Montagne. Mm-hmm. Donc, on l'a entendu, hein, le choix du pâturage, du lait cru, de la race Aubrac à l'heure de l'agriculture chimique et de la pasteurisation. Eh bien, depuis, la région, elle connaît un renouveau aussi de production fermière. Et cette capacité à se fédérer qui ouvre un monde et fait des petits, c'est familier au milieu des vins naturels. Et au nord-est de l'Ayol, à la limite du Cantal et de la Lozère, on peut citer un ambassadeur du genre installé depuis 21 ans.
Ah, je le connais bien celui-là. Il a d'ailleurs des vignes absolument incroyables au bord d'un lac.
Ouais.
Sur les contreforts de l'Aubrac, c'est Nicolas Carmaran.
Exactement. Nicolas Carmaran, donc il s'est installé en Aveyron parce qu'il en est originaire, et pour montrer que c'était possible de faire ici le vin qu'il aimait. Et comme Jeune Montagne, il a inspiré plusieurs jeunes qui sont passés par chez lui et qui font maintenant du vin en Aveyron. Domaine des Boissières, Domaine les Buis, Hugo Épinou, etc. Et comme Jeune Montagne, Nicolas Carmaran a fait des choix forts, bio dès le début, aucun produit œnologique, et cépage local, le fer Servadou. Le fer pour les intimes.
FER.
Exactement. Ce cépage, il le trouvait rustique, manquant de finesse, mais à la vigne, c'était toujours lui le plus beau, visiblement fait pour la pluie et l'altitude de la région. Alors il a décidé que ce serait à lui de s'adapter au cépage. Et ça, c'est un conseil qui vient de Marcel Lapierre, tête de proue de la première génération du vin naturel, qu'on n'appelait pas encore vin naturel.
Ça se passait dans le Beaujolais, hein.
Exactement. Nicolas Carmaran, avant sa vie de vigneron, il était bistrotier à Paris et il a fait partie des premiers à proposer les vins de ces grands noms qui s'engageaient vis-à-vis des enjeux écologiques et sociaux, dont les vins d'un domaine avant-gardiste dont je voulais vous parler. Vous allez sûrement pouvoir deviner. Installation en 79, donc 24 ans plus tôt que Nicolas Carmaran. Les vins sont un pied de nez au modèle agro-industriel de vieux grenaches dans la Drôme. Provençal.
Bah, décidément, je suis gâté, hein, parce qu'on a beaucoup d'affection pour elle. C'est une vigneronne pionnière et elle nous écoute tous les dimanches. Domaine Gramenon, bonjour à Michel Aubéry.
Et Michel Aubéry, un jour, elle a demandé à son tour les vins de Nicolas Carmaran pour sa cave, parce que depuis 2018, elle est caviste dans la ville de ses filles, Alix et Agnès, avec qui elle gère Gramenon et compagnie à Grenoble. Le fils Maxime François Laurent est maintenant au domaine. Et cette cave, elle est remplie de bijoux. Alors les vrais bijoux d'Alix Laurent, artisane, et les bouteilles choisies au coup de cœur. C'est un moyen de continuer à mettre en valeur les rencontres d'une vie, les vins de celles et ceux qui ont vu grandir les filles, et de continuer à découvrir les nouveaux installés.
Et là devant nous, chère Justine, vous avez versé deux rouges dans nos verres.
Oui, pas idéal avec le Laguiole.
Mais ça va en fait, parce que les tanins n'accrochent pas trop, ça va bien.
Puis c'est des très bons vins. Alors quand le vin est bon, franchement, les accords, on peut se détendre.
Ah bah les accords, mais là, on est d'accord, Pierre Coulon.
Bah, là, c'est vrai que les deux domaines ont un cépage rouge si emblématique que bon, c'était difficile de passer à côté. Michel Aubéry dit des vins de Biba et Nicolas Carmaran. Ils sont deux désormais au domaine. Elle dit que ces vins superbes ont tout, à commencer par l'ancrage du lieu, l'expression donnée au cépage avec énormément d'élégance. Et pour illustrer ses propos, donc c'est votre verre de gauche, cuvée Mauvais Temps 2023, première cuvée de fer Cervadou du domaine, de vieilles vignes sur les terres rouges feu de l'Aveyron. Mmh. Et pour les vins du domaine Gramenon, bu par Nicolas Carmaran, c'est ce fil conducteur qu'on reconnaît tout de suite qu'il aime, la pureté de fruits, l'équilibre même en région solaire. La douceur, la rondeur et la puissance à la fois. C'est votre verre de droite, cuvée La Sagesse 2022, vieille vigne de grenache de 80 ans
ah
au
oui,
moins,
quand même.
Tout en dentelle.
Oh là là, donc vous avez carrément croisé les dégustations entre Nicolas Carmaran d'un côté et sa compagne Biba, et Michel Aubéry de l'autre.
Exactement, là il faut goûter.
C'est vraiment.
J'ai bien goûté. Les deux sont excellents et les deux, je trouve, ont une grande vivacité en fait. Enfin, une grande joie quoi, quand on les boit.
Avec des tanins très élégants et très souples. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux vins, même si on n'a pas affaire au même terroir et au même cépage. Mais c'est des vins vivants, vibrants, de caractère. C'est quoi les budgets pour ces vins, Justine ?
Ça, c'est deux grandes cuvées qui vont être autour de 22 euros mm-hmm. à la cave Gramenon qui fait aussi des envois.
Donc, vous nous rappelez les deux domaines en jeu.
Nicolas et Biba Carmaran, cuvée Mauvais Temps 2023.
En Aveyron, donc. Hein.
Oui, et domaine Gramenon, cuvée La Sagesse 2022.
Un grand merci, Justine, pour ces deux belles cuvées qui pourraient peut-être accompagner le dernier plat surprise. Là, en lisant rapidement mes fiches, je me disais qu'on allait jouer à la pétanque.
Non, on va jouer à la patranque. La patranque, c'est une recette, quand j'ai écrit mon livre, il y a certaines recettes régionales où quand on les lit, on se dit non, ça va pas être bon, et quand on les fait, on découvre des choses intéressantes. On prend du pain, alors au levain, pour qu'on ait l'acidité, hein, pour qu'elle accompagne le fromage.
Un bon pain de campagne.
Oui, alors il peut être rassis, mm-hmm. on le met à tremper dans du lait, on le presse au bout d'une demi-heure, et on le mélange avec de la tomme fraîche, et avec, alors là je vous ai mis du salaire, et vous allez voir, on obtient un genre de galette de pain, alors très filante, c'est l'avantage de la tomme blanche, c'est que des fils, on en partout.
Et la tomme blanche ou tomme fraîche, je sais pas comment on dit.
Alors tomme fraîche, excusez-moi, c'est mon côté fabricant où je parle de tomme blanche, mais tomme fraîche.
Est-ce qu'on la trouve facilement? Parce que moi, j'en vois pas beaucoup.
Alors on la demande dans sa crèmerie, hein, très clairement. On en croise un peu des fois en grande distribution pendant la saison, ou sinon, bah on essaie de la remplacer avec un autre fromage. Mais alors pour avoir tous ces fils-là, bon courage parce qu'il y a que elle qui sait faire ça.
C'est bon. Alors Justine, Zazie.
le pain, il est un petit peu, il croustille, il est un petit peu accroché au fond de la poêle, ça ramène un petit côté toasté là, c'est super.
Un petit côté sorti du grille-pain, qui n'est pas désagréable en effet, Zazie.
Ouais, on l'imagine bien avec une bonne soupe l'hiver, et de toute façon le fromage fondu, ça a aussi ce côté tout le temps très réconfortant quand même.
Effectivement.
Oh là là, quel régal. Vous nous rappelez le nom un peu bizarre de cette spécialité, mais qu'on va refaire à la maison.
La patranque.
La patranque, un grand merci Pierre Coulon. Il connaît tout sur les fromages, il tient de super boutiques à Paris et en plus il sait cuisiner. Je rappelle que vous avez signé ce livre de référence qu'on a dans nos bibliothèques, Le bon savoir du fromage chez First Edition. Et on peut donc aussi vous retrouver dans deux boutiques à Paris. Vous nous en rappelez les adresses, Pierre ?
74 rue des Poissonniers dans le 18e et 125 rue Trimet dans le 19e.
Merci, vous revenez quand ?
Quand vous voulez.
On va parler camembert, pas mal d'autres sujets à évoquer aussi.
Idées, hein. Ouais, effectivement.
Merci Justine, merci Zazie, à la prochaine.
Merci, à la bientôt.
La semaine prochaine, une émission spéciale. C'est la masterclass d'une chef qui a marqué la seconde moitié du XXe siècle, qui a accueilli le monde entier dans son restaurant parisien, qui fut l'une des pionnières de la bistronomie, une pionnière de plus, qui fut même chroniqueuse à France Inter, figurez-vous. C'est Olympe Versini, à laquelle l'autrice Anne Hétor consacre un très beau livre chez Hachette Cuisine. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.